Bonsoir, Michel Murator. Ce soir, je vous propose un alter regard sur la propriété de la terre et le droit de déambuler. Alors, on parle de plus en plus de droit pour la nature, pour la protéger. Il y a des procès retentissants, médiatiquement, pour donner des droits à la nature. Je mets droit au pluriel, mais nous verrons avec mon invitée, elle l'écrit au singulier, donc c'est de façon plus globale, plus générale. La notion de bien commun est de plus en plus citée. Il y a une réflexion autour des biens communs et surtout, là aussi, la nécessité de les protéger juridiquement devant l'urgence climatique. Donc comment faire pour que ces biens communs soient accessibles à tous, tels que la forêt, l'air et la terre, et comment les protéger? Le Code civil appréhende-t-il convenablement les biens communs? Mon invité est juriste et aborde cette question. Donc, Sarah Van Uxen, bonjour, vous pouvez vous présenter.
Bonjour, ben merci beaucoup pour cette invitation. Donc je suis enseignante-chercheuse à l'Université Côte d'Azur et plus précisément maîtresse de conférence à la faculté de droit. Je mène des recherches en droit de l'environnement et droit civil essentiellement, mais avec des incursions dans d'autres disciplines comme la philosophie environnementale, l'histoire du droit ou encore l'anthropologie, en particulier l'anthropologie de la nature.
Alors tout d'abord, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'on appelle les communs ? Je l'ai un peu dit dans l'intro, mais est-ce que ça a une valeur juridique ?
Alors une première définition que l'on peut donner des communs, mais c'est une définition parmi beaucoup d'autres, on peut dire que c'est un système de gestion des ressources naturelles en autogestion, un système d'autogestion des ressources naturelles. Si on précise un tout petit peu plus les choses, on peut dire que c'est un système dans lequel ou par lequel une communauté d'usagers décide de mettre en commun un certain nombre de biens, donc effectivement des biens forestiers, des pâtures par exemple, ou bien encore des lagunes, choisit d'établir des règles pour l'administration, la bonne intendance ou la gestion de ces biens mis en commun, et ensuite aussi prévoit des règles pour assurer la gestion des conflits lorsqu'ils surviennent entre les différents usagers. À la question de savoir si le Code civil laisse une place suffisante ou convenable au bien commun, il n'y a pas qu'une seule réponse que l'on peut apporter, mais souligner qu'à l'article 542 du Code civil sont définis les biens communaux, qui définissent les biens communaux comme des biens qui appartiennent aux habitants d'une commune, à la généralité, à la collectivité d'une commune, et donc on a quand même dans le code de Napoléon, le code de 1804, une disposition qui renvoie clairement à la propriété collective.
En parallèle ou à côté, je ne sais pas comment on peut dire, on trouve le droit de propriété, on dit que c'est le droit d'usus fructus abusus, en français d'user, d'en percevoir les fruits et d'en abuser. Donc ce droit de propriété, comment on le pose, comment ça s'imbrique ou pas?
Alors déjà, en citant juste à l'instant l'article 542 du Code civil, on a déjà donné une première définition en fait de la propriété telle qu'elle apparaît dans ce Code Napoléon. Les biens communaux sont ceux qui appartiennent aux habitants d'une commune. Donc on a d'emblée une propriété que l'on pourrait qualifier de propriété communale qui est dans le Code civil et qui ne renvoie pas ce faisceau de prérogatives, droit d'usage, droit de jouir et droit de disposer. En fait, la présentation de la propriété comme étant un faisceau de prérogatives, une réunion de l'usus, du fructus et de l'abusus, c'est une lecture, mais une lecture seulement de l'article 544 du Code civil. Puisque l'article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Donc ce sont simplement certains auteurs que l'on range sous la catégorie des théoriciens classiques de la propriété qui proposent cette définition de la propriété à partir des trois prérogatives.
Alors, on peut faire un peu d'histoire sur la propriété parce que ça, c'est quand même ancien.
Oui, on peut faire remonter la propriété au berceau de notre tradition juridique, la tradition civiliste, qu'on nomme aussi romano-germanique au droit romain. Mais en réalité, les historiens pourraient faire remonter la propriété à des périodes bien plus anciennes encore, comme par exemple le droit mésopotamien. Et à l'inverse, pour simplifier les choses, on peut, sur cette histoire de la propriété, on peut simplement penser à la coupure qu'aurait introduit la Révolution française, pour ce qui concerne le territoire français, entre l'ancien droit et la période dite moderne, en disant que dans l'ancien droit prévalait un système dit de propriété simultanée ou juxtaposée, par lesquels une terre était soumise à une multitude de droits d'usage, de droits de propriété octroyant des usages particuliers sur la terre. Et après la Révolution française, et via l'introduction du Code civil en 1804, on dit, mais c'est l'histoire la plus commune, ce n'est pas forcément la plus juste, on dit que a prévalu une conception exclusiviste de la propriété, donc qui met fin à ce système de propriété simultanée avec une propriété qui est regardée comme un droit souverain, de maîtrise souveraine sur les choses. Mais évidemment, on peut revenir et critiquer cette histoire qui est la plus communément racontée.
Alors, est-ce que du coup, c'est le même article du Code civil qui intervient pour les communs et pour la propriété? C'est un peu ce qui n'est pas du commun et de la propriété ou vice-versa? On peut le dire comme ça aussi?
Alors, pour un certain nombre d'auteurs qui lisent l'article 544 du Code civil, effectivement, propriété et commun sont antinomiques. La propriété ne pourrait pas être une copropriété, il y aurait une contradiction dans les termes, ce serait même un oxymore. Mais en réalité, lorsque l'on lit le Code civil, on s'aperçoit qu'il y a maintes dispositions qui permettent la copropriété. Alors, hors le Code civil, la copropriété des immeubles bâtis, dans le Code civil, l'indivision ordinaire, on peut penser aussi à la mitoyenneté des murs, et une série d'autres dispositifs qui permettent, comme les servitudes foncières, les services fonciers ou les servitudes réelles, encore appelées prédiales, eh bien de répartir les utilités, par exemple, d'un fonds de terre entre les mains de plusieurs personnes. Donc on peut dire que, finalement, propriété et commun vont de pair. Simplement, si vous représentez une chose comme une part de gâteau, effectivement, c'est-à-dire de manière comme un corps, une substance étendue, effectivement, il devient difficile d'en penser la copropriété, la propriété à plusieurs. Mais si vous acceptez de vous représenter les choses que l'on dit appropriées autrement que comme une entité matérielle, une part de gâteau, bien plutôt par exemple comme un paysage, eh bien là vous pouvez tout à fait envisager que plusieurs personnes jouissent en même temps de la beauté du paysage. Et là, d'emblée, la copropriété ou la propriété à plusieurs, propriété et commun peuvent aller de pair.
Oui, parce que quand on parle des communs, on parle souvent des forêts, donc des paysages, de l'air, de l'eau. Et tout ça fait partie de ce que le plus naturellement on appelle nous les communs.
Oui, alors là, on peut ouvrir l'article du Code de l'environnement. Le premier article du Code de l'environnement, c'est l'article L110-1, qui justement vient définir ce qu'est le patrimoine commun de la nation française. Et on voit là citer effectivement la qualité de l'air, la qualité de l'eau, ou bien encore les forêts, ou bien encore les paysages. Donc on peut en effet dire que si on lit le Code de l'environnement et le Code civil en même temps, eh bien, en définitive, le propriétaire foncier, à titre privé, n'est pas propriétaire de toutes les dimensions de la chose. Il y a des dimensions de la chose, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les paysages, qui sont dits appartenir à la nation française, participer du patrimoine commun de la nation française.
Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas avoir de droit dessus, mais il y a des droits qui peuvent protéger.
Eh bien là, tout dépend en fait de la lecture que voudra bien en faire peut-être un jour le juge. S'il accepte de lire en même temps l'article L110 du Code de l'environnement et l'article 544 du Code civil, il se pourrait en effet qu'il reconnaisse de véritables droits à la communauté des usagers, aux membres de la nation française, sur des dimensions, par exemple la biodiversité, qui est elle aussi dite appartenir au patrimoine commun de la nation française. Quand bien même l'agriculteur aurait la propriété de sa terre, peut-être que certaines dimensions de la Terre, comme la biodiversité, ne sont pas de son exclusivité. Mais ça, il faut attendre des décisions peut-être ultérieures qui viendront du juge. Pour l'heure, ce sont juste des lectures, des propositions doctrinales qui peuvent être faites.
Alors, je reviens sur la propriété, parce que il y a des, vous avez un peu abordé, il y a des copropriétés, comme on appelle, donc sur un immeuble, sur l'individu, tout ça. À ce moment-là, il y a des règles. Comment ça se passe?
Alors, qui dit commun dit conflit, qui surgissent inévitablement. Et donc, depuis très longtemps, justement, les biens qui sont mis en commun sont assujettis à un certain nombre de règles. À ces règles, elles peuvent être des règles indigènes, des règles autochtones, des règles issues de la coutume. Et être décidé par la communauté des usagers. Mais effectivement, dans le code civil, on a déjà, pour parer à un certain nombre de conflits, bien un certain nombre de règles qui sont édictées. Par exemple, pour l'indivision, effectivement. Mais on a aussi d'autres dispositions qui existent. Par exemple, le droit de superficie, ou bien encore, on peut remonter à des propriétés que l'on connaît mal. Par exemple, la propriété arboraire qui vient dissocier le sol des arbres, ou bien encore le sol de la terre, avec effectivement voilà des règles d'usage qui sont prévues dans les communautés, par les communautés qui les règlent. Pensons aussi aux sections de communes dont les règles sont précisées dans le code général des collectivités territoriales, et donc pour les biens communs, pâturages, forêts d'un certain nombre de sections de communes, des fractions de communes, de villages, de bourgs ou de hameaux, on a déjà effectivement des règles qui sont posées dans le code général des collectivités territoriales.
Et les règles, elles peuvent être décidées d'un commun accord avec les différents, parce que c'est là qu'on est sur une démocratie quand même, si on se décide ses propres règles dans le groupe.
Alors là, toute la difficulté est que avec une loi de 2013 dite de modernisation des sections de communes, le législateur français, mais le législateur italien ne procède pas du tout de la même manière. Le législateur français, lui, a décidé de mettre fin, de supprimer à petit feu, progressivement, ces sections de communes. De sorte que le Code général des collectivités territoriales vient véritablement corseter les sections de communes, qui ne sont plus véritablement libres, finalement, de gérer leurs biens, notamment forestiers. Je pense par exemple au droit d'affouage, au droit de prélever du bois comme elles le souhaitent. Donc on a une difficulté d'articulation ici entre la loi et puis les règles d'usage, des règles qui peuvent être coutumières et émanées du groupe. Disons qu'aujourd'hui, on renvoie dans un certain nombre de cas aux usages locaux pour décider des règles, mais cette portion est de plus en plus congrue.
Alors, on voit aussi dans les partages de propriété apparaître ce qu'on appelle maintenant le bail réel solidaire, qui est, donc on n'est plus propriétaire du sol. C'est les Anglo-Saxons là qui nous ont apporté ça. Quel intérêt, en fait, comment c'est protégé juridiquement, et puis quel intérêt pour les propriétaires, puisque c'est ça, c'est une partie de la propriété.
Je ne suis pas du tout spécialiste des communs urbains, mais effectivement certains de mes collègues qui travaillent sur le mouvement des communs étudient ces différentes configurations qui permettent en effet de dissocier la propriété du sol et la propriété des locaux, en particulier ici des appartements. Donc c'est le cas, si j'ai bien compris, du bail réel solidaire, où en fait c'est un organisme qui a la propriété de la terre et qui permet finalement l'accès à la propriété uniquement des appartements par ce qu'on pourrait appeler des locataires propriétaires, des locataires du sol et propriétaires de leur appartement. Donc ce sont des mécanismes qui nous renvoient en quelque sorte au système des propriétés simultanées, avec une dissociation finalement de la propriété de la terre et de la propriété de droit d'usage finalement seulement relativement à la terre, à travers la propriété dite de ces bâtiments. Ça renvoie effectivement au droit anglo-saxon. Et sur le territoire français, cela me fait penser aussi à la manière dont un certain nombre de communautés que l'on pourrait dire libertaires se sont emparées d'un mécanisme qui est le mécanisme des fonds de dotation, qui permettent de créer comme de mini-fondations ou de créer des fondations un peu plus aisément que cela n'est permis lorsque l'on crée une fondation qui demande un décret en Conseil d'État et voilà, une procédure un peu plus lourde. Et ils s'en sont emparés pour pérenniser en définitive leur lieu de vie. Donc ce sont des communautés qui créent, je pense ici à la fondation par exemple Antidote ou d'autres fondations qui donc acquièrent des terres, mais ce ne sont pas eux les personnes qui en fait font l'acquisition de la terre. C'est le fonds de dotation, donc doté de la personnalité morale, et cela leur permet en définitive, lorsque les fondateurs du lieu de vie choisissent, par exemple, comme cela arrive un certain nombre de cas, de repartir ou de déménager ou d'abandonner le lieu communautaire, eh bien le lieu lui demeure grâce au fonds de dotation, puisqu'il n'est plus permis aux fondateurs en fait de retirer comme les biens qu'ils avaient initialement apportés au fonds de dotation. Et là, on a une dissociation qui ne passe pas entre la terre et les appartements, comme précisément dans le cas du bail réel solidaire, mais une propriété qui est celle du lieu lui-même, à travers le fonds de dotation qui est créé, et puis des associations qui peuvent utiliser finalement les lieux mis à la disposition des habitants, des gens qui participent de ces fonds de dotation.
Ça se rapproche des habitats partagés, un peu.
Ça se rapproche des habitats partagés. En fait, disons qu'il y a tout plein d'instruments juridiques dont se saisissent un certain nombre de communautés pour essayer de pérenniser ou bien leur lieu de vie ou bien leur projet. Par exemple, le fonds de dotation, il a été aussi récemment utilisé pour sauvegarder un cinéma. À Paris, le cinéma La Clé, dans le 5e arrondissement, où ils ont pareillement créé un fonds de dotation pour pérenniser ce lieu, qui est donc qui appartient à une communauté finalement d'amateurs de films. Et c'est là aussi l'outil juridique qu'ils ont repéré comme étant profitable. Disons tout de suite que, par exemple, sur la ZAD, la zone a devenu zone à défendre ou même zone à désirer de Notre-Dame-des-Landes. Le projet initial avait été ils avaient imaginé dans un premier temps créer une section de communes, dont on vient de parler, pour pérenniser les lieux. Mais le législateur de 2013 a décidé que l'on ne pouvait plus créer de section de communes, que cela était interdit de créer de nouvelles sections de communes. Et c'est la raison aussi pour laquelle ils se sont tournés vers le fonds de dotation aussi. Commune en vie, si je ne me trompe pas je dois me tromper sur le nom de leur fonds de dotation, mais ils en ont également créé un. Je donne cet exemple, mais en réalité, effectivement, il y a plein d'outils juridiques qui sont aujourd'hui utilisés pour reconstituer des communs, faute de trouver dans le seul article 542 du Code civil sur les biens communaux, eh bien, un outil suffisant, en fait, pour asseoir leur projet communautaire.
Comme dans le temps où on a acheté un petit bout du Larzac pour pas le laisser à l'armée s'installer. Dans les années 70, chacun a acheté 3 mètres carrés du Larzac et comme ça, on a protégé le Larzac.
Bien voilà. Sûr, autre stratégie
c'est même,
qui est historiquement
l'idée, c'est ça aussi. Oui. Voilà. Alors, on se retrouve après un peu de musique.
Son of poverty, the wild man. scorn and grinning kind for me. Unequaled though my soul seems, but great indeed they are. Oh, hear my sorrows for my stream. You'll find an equal there.
Bonsoir Michel Murator, dont nous nous retrouvons avec Sarah Van Oxen pour parler de propriété. Pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
C'est un morceau donc récent hein, d'un groupe de folk contemporain, mais qui reprend en réalité un poème de John Clare, qui est un poète de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qui déplore la perte des communs dans son village d'Elpston et qui dénonce justement la tragédie des enclosures qui met fin aux communs de son village donc par un certain nombre de lois dites d'enclosure. On a permis aux plus gros des fermiers de son village d'enclore un certain nombre de communs, notamment des pâturages qui faisaient ses joies lorsqu'il était enfant et qui lui permettaient aisément de circuler, d'errer, de se déplacer. Et donc il regarde les communs, ces communs perdus, comme étant d'abord des communs qui sont comme des terres errantes. Il y a une articulation très forte entre la perception qu'il a des communs perdus et cette liberté d'aller et venir qu'il a aussi dans le même temps perdu. Ces poèmes sont aussi très beaux parce qu'ils font directement écho à ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropologie de la nature, où l'on s'aperçoit qu'en définitive, l'idée de fermer les communs, les communautés aux seuls êtres humains qui géraient des ressources naturelles, bah, c'est quelque chose qui est très contemporain. John Clare, lorsqu'il nous présente les communs qu'il a perdus, c'est des communs que lui, en tant qu'être humain, a perdus, mais ce sont aussi les vaches, qui les ont perdus avec les moutons, les bergers et également les os. Et ce morceau que nous venons d'écouter s'intitule, si je le traduis en français, Les Lamentations des os de chêne rond. Et donc c'est le chêne rond qui pleure en définitive les enclosures, la clôture des terres.
Oui, donc c'est une manière de marquer la propriété, de clôturer.
C'est une manière de transformer même la définition que l'on avait auparavant de la propriété. Parce que cette idée de définir la propriété par la clôture, par le droit de se clore, en réalité, elle ne va pas du tout de soi. C'est à une période assez récente que l'on a permis aux propriétaires dits fonciers de se clore. Si l'on pense, si on reprend l'histoire de l'Angleterre en pensant à John Clare, en réalité, on pense que des enclosures, donc des formes de clôture des terrains par les plus gros des fermiers, ont pu commencer en Angleterre au XVIe siècle. Alors, la période, selon les historiens, peut être modifiée, mais disons, comme grand marqueur, le XVIe siècle. Et au début, c'était au contraire, ce clore, c'était quelque chose qui allait à l'encontre de la propriété collective, des droits d'usage collectif des paysans, qui n'hésitaient pas à se plaindre auprès du roi, auprès du parlement. Pendant plus d'un siècle au moins, le roi et le parlement ont donné raison aux paysans qui se plaignaient à raison, justement, depuis leur propre point de vue, après la propriété collective foncière. Et on donnait tort donc à ces gros fermiers qui décidaient d'enclore les terres. Et puis petit à petit, ben, le mouvement s'est inversé et des lois d'enclosure ont été prises, au contraire, par le Parlement, permettant à ceux qui le demandaient, parmi ces gros fermiers en ayant les moyens financiers, eh bien de se clore. Donc c'est véritablement un renversement en fait, hein, de la conception de la propriété. Nous, on ouvre le code civil, on découvre que le propriétaire foncier a le droit de se clore, mais cela ne va pas du tout de soi. Pendant très longtemps, au contraire, il était interdit de retirer en fait la communauté des usages, comme le droit de prélever du bois, le droit de glaner, le droit de faire paître, par exemple, ses moutons après les récoltes. C'était proprement interdit. D'ailleurs, on en a encore la marque, hein, de cette inversion de la conception même de la propriété dans le code civil, puisque si je ne me trompe pas, c'est à l'article 647 du code civil que l'on définit ce droit de se clore, hein, dont il serait une prérogative du propriétaire foncier, sauf la réserve d'une servitude de passage. Et l'article qui suit nous dit bien que celui qui choisit de se clore, en contrepartie, renonce au droit de veine pâture sur une partie d'une superficie égale à celle dont il vient de priver la communauté. C'est bien que ce clore ne va pas de soi, puisque si vous choisissez de vous clore, et c'est encore le code civil dans son état actuel français, eh bien vous consentez finalement à ne plus pouvoir utiliser, vous, ce droit de veine pâture, donc encore une fois, sur une étendue égale à celle dont vous venez de priver la communauté des usagers. Donc vraiment, je pense avoir en tête que lorsque des auteurs comme Karl Marx ou comme Polanyi parlent de spoliation de la propriété collective au temps des enclosures, il n'y a pas là une manière politique de présenter les choses. Évidemment, c'est toujours politique, mais c'est aussi juridique. On a véritablement un changement institutionnel dans la manière de percevoir ce qu'est la propriété, qui était d'abord et avant tout une propriété d'accès, une propriété d'inclusion. Je suis propriétaire, c'est-à-dire que j'ai le droit d'accéder à des terres qui sont partagées avec d'autres. Et le droit d'exclusion, il apparaît aussi, mais seulement dans un second temps, pour justement exclure les non-ayants droit, ceux qui ne sont pas les habitants du village, par exemple, de l'accès aux terres.
Ça nous ramène à ce que vous appelez la faculté d'habiter.
Oui, alors la faculté d'habiter, c'est effectivement une proposition faite, une proposition donc doctrinale, de relire l'article 544 du Code civil en disant, après tout, est-ce que véritablement cet article 544 du Code civil nous invite à concevoir la propriété comme un pouvoir de domination. Si on le reprend, cet article 544, on y dit que la propriété, c'est le droit d'user et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Mais cet adjectif absolu, quelle en est la signification? La plupart des auteurs vont expliquer que absolu signifie exclusif. Et donc que la propriété est aussi un rapport d'exclusivité entre le propriétaire et sa chose. Ça nous renvoie au droit de se clore. Je peux repousser les autres, je peux même me clôturer et empêcher les autres de passer sur mon passage, sur mon territoire par exemple, sur ma terre. Mais en réalité, l'article 544 du Code civil, lorsqu'on le lit, ne nous dit pas que absolu signifie exclusif. C'est une lecture doctrinale et qui d'ailleurs se comprend assez mal lorsque l'on a à côté, en tête, les dispositions relatives à la mitoyenneté, aux services fonciers, à la copropriété, toutes les dispositions précitées. Absolu, on nous dit aussi que cela signifie souverain, comme si être propriétaire, c'était pouvoir faire absolument tout ce que l'on veut, par exemple de sa terre. Mais comment comprendre alors la deuxième partie de l'article 544 du Code civil qui nous invite à ne pas faire un usage des choses prohibées par les lois et les règlements? Cela voudrait dire qu'il y a une contradiction au sein même de l'article 544 du Code civil. Ensuite, on nous dit absolu, cela peut peut-être signifier perpétuel, éternel. Mais là encore, on connaît des formes de propriété temporaire, à commencer par la propriété dite intellectuelle, la propriété littéraire artistique, la propriété dite industrielle, les brevets, qui consentent des monopoles d'exploitation, mais temporaires sur la chose. Et donc finalement, ce terme absolu, il peut simplement renvoyer à une opposition à tous, ce que l'on appelle en droit l'opposabilité erga omnes. Et donc finalement, quand on a fait ce travail de relecture de l'article 544 du Code civil, et que on se rappelle que la chose en droit, cela n'a pas du tout toujours signifié un objet de droit qui serait entre les mains d'un sujet de droit, que cette opposition que l'on fait entre chose et personne comme renvoyant à une opposition des objets et des sujets de droit est tout à fait récente. Lorsque l'on se reporte au droit romain et où on s'aperçoit où la chose en droit, c'est d'abord le litige, l'affaire, le lieu précisément, le lieu, le milieu, le lieu de rassemblement des éléments d'une affaire, eh bien on peut commencer à imaginer une autre manière de concevoir la propriété. Et ces choses dont on dit avoir la propriété au sens absolu, eh bien, on peut peut-être imaginer les penser plutôt que comme une part de gâteau, peut-être les penser, reprenons nos exemples précédents, comme un paysage, voire comme un séjour, une demeure, une écoumène, si l'on reprend les termes d'Augustin Berck, un lieu dans lequel vivre, un milieu dans lequel vivre. Et à ce moment-là, le rapport de propriété n'est plus conçu comme un rapport de domination, mais comme un rapport d'habitation. Donc c'est une proposition doctrinale, mais ce que j'explique, c'est que, en définitive, peut-être que cette conception de la propriété comme un rapport d'habitation, elle rend aussi bien compte de l'état du droit positif, d'un certain nombre de décisions de justice qui, manifestement, ne vont pas dans le sens de la vision de la propriété comme d'un pouvoir de domination ou de souveraineté.
Donc on ne domine plus la terre, on l'habite, mais ça entraîne aussi un équilibre, une recherche d'équilibre entre l'homme et la nature.
Effectivement, l'homme n'est alors plus perçu comme un maître, dominateur, souverain, despote sur ses choses, mais bien plutôt comme l'habitant des choses. Et alors là, ça a cette vertu, me semble-t-il, à la fois de renvoyer en histoire du droit aux propriétés simultanées. Lorsqu'on était propriétaire de la terre, on n'était jamais que propriétaire d'un droit d'usage relativement à la terre et avec d'autres. Donc être propriétaire de la terre, en définitive, c'est simplement avoir un droit dans la terre que l'on doit partager avec d'autres. Et cela renvoie aussi, autre mérite, me semble-t-il, à l'anthropologie. Cela renvoie à la propriété kanak, par exemple, lorsqu'on nous dit que pour le peuple kanak, la propriété de la terre n'a d'autre sens que de signifier l'appartenance à la terre et de la terre, ce double sens. Je suis approprié à la terre que j'habite, comme j'ai la propriété de la terre, dont je dis être propriétaire. Ce double sens de l'appartenance. Et on le trouve aussi en d'autres lieux. Donc je pensais aussi aux structures sociales du Haut Atlas, ce livre de Jacques Berck, dans lequel il présente un petit douar, un village du Haut Atlas, les Heitmend. Et il explique aussi que voilà, la propriété, être propriétaire dans ce village, c'est aussi être dans une relation de conformité à la terre que l'on habite. Donc s'approprier à la terre, se rendre compatible, avoir un usage compatible à la terre que l'on habite. Et cela renvoie aussi à un ouvrage qui est paru il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, de Danuta Libersky-Banyut, qui est une anthropologue, et qui s'appelle « La souveraineté de la terre », qui est un ouvrage qui est écrit à partir d'un cas burkinabé, les terres voltaïques, pour être plus précise, et qui explique aussi que, eh bien, dans ces lieux, on n'a pas la propriété de la terre en elle-même. La terre en elle-même ne s'achète pas. C'est bien plutôt le maître des lieux qui vient plutôt le gardien des, je reprends son expression exacte et qui est beaucoup plus juste, le gardien de la terre qui vient vous autoriser à prendre place dans la terre. Et donc, on a bien cette idée de la terre comme d'un séjour, d'un habitat que l'on vient habiter, d'un milieu dans lequel l'on vient habiter, et on vous donne une place, on vous donne une position privilégiée dans cette chose, mais rien de plus.
Mais quand vous avez parlé d'habiter la terre, l'homme n'est pas le seul à habiter la terre, donc il faut aussi, si on veut protéger, tenir compte aussi de ce qu'on appelle maintenant, pour faire court, toute la biodiversité qui habite avec lui.
La question est également, en effet, de faire place aussi à d'autres propriétaires, qui seraient des propriétaires non humains, de faire place dans la communauté, eh bien, aux animaux, aux végétaux, aux champignons, ou bien encore aux eaux. Et alors là, effectivement, faire place à des propriétaires qui seraient des propriétaires non humains, voire penser la propriété d'une chose, comme étant une entité propriétaire, là, cela paraît aussi complètement révolutionnaire. Mais en définitive, encore une fois, lorsque l'on se tourne vers l'ancien droit, eh bien, on s'aperçoit que l'idée selon laquelle un fond de terre, une bâtisse, un bâtiment, une église, un temple, voire même une cité, était propriétaire de biens ou de droits, c'était une solution possible parmi d'autres, une solution juridique parmi d'autres. Et donc, on a notamment la théorie dite de Moïse de Ravenne, au XIIe siècle, qui permet de penser qu'un fonds de terre soit propriétaire de biens ou de droits. Et cette solution de penser un bâtiment, même une église, comme étant propriétaire de biens ou de droits, il faut bien voir qu'elle est, c'est une solution qui est posée, qui est une solution qui est apportée à un problème qui touche à la communauté. Là, j'ai en tête un article de Yann Thomas, d'un historien, d'un romaniste, un grand romaniste Yann Thomas, sur la communauté disparue. La question est en effet la suivante. Vous avez un monastère, mais tous les moines viennent à disparaître. À qui appartiennent les biens du monastère? Est-ce qu'ils doivent revenir à la personne qui initialement a donné les biens à la communauté des moines? Est-ce que ces biens doivent être déclarés vacants, chose sans maître, et retournés au pape, on dirait aujourd'hui à l'État? Ou bien encore, troisième solution, est-ce que l'on doit considérer que ces biens appartiennent au lieu lui-même, au bâtiment lui-même? Et donc cette solution de penser des lieux propriétaires, elle est directement connectée à celle de penser la communauté des biens. Comment penser précisément la propriété d'une communauté?
Et c'est là qu'on parle maintenant des droits de la nature, de donner des droits à la nature. Donc il y a aussi cette approche-là de faire reconnaître des droits au sens juridique, du coup, à la nature.
Oui, et en même temps, il y a un profond paradoxe. Donc là, on fait référence à un courant, enfin plutôt un mouvement contemporain et planétaire de reconnaissance de droits à la nature. Les cas les plus courants, ce sont les cas équatoriens et boliviens. On a reconnu à la terre-mère ou Pachamama la personnalité juridique. On a aussi reconnu cette fois-ci à des milieux naturels la personnalité juridique, comme par exemple en Nouvelle-Zélande au fleuve Whanganui. Mais plus proche de nous aussi, à la mer Menor, par exemple, en Espagne, une lagune hautement polluée. Donc, c'est paradoxal, parce que d'une certaine façon, oui, cela nous renvoie, d'une certaine manière, vers ce que je viens de décrire, des lieux comme le fleuve Whanganui, ou la lagune de mer Menor, ou encore la forêt amazonienne, qui sont déclarés sujets de droit, puisqu'on leur reconnaît des droits, mais en même temps, justement, cette théorie de Moïse de Ravenne, elle entendait justement proposer une autre solution que celle de la personnification. Attribuer directement des droits à des lieux, par exemple un bâtiment, une église, une cité, et non pas personnifier cette chose pour pouvoir lui accorder des droits. Et donc, en réalité, il y a là un paradoxe, parce que cette solution de la personnalité juridique de la nature, c'est une solution en fait moderne, occidentale moderne, qui appartient à cette deuxième, finalement, grande période de notre histoire du droit, celle de la période que l'on pourrait dire moderne et que l'on appelle subjectiviste, où l'on oppose des sujets de droit et des objets de droit. Cette solution, elle est moderne parce qu'elle revient finalement à évider la catégorie des choses que l'on assimile à des objets de droit pour remplir, augmenter, grossir la catégorie de sujets de droit que l'on assimile alors, que l'on identifie alors aux personnes. Et donc, il y aurait peut-être une autre voie encore que celle de la personnalité juridique, qui serait accorder des droits directement, sans personnification, sans subjectivisation, aux choses, et en particulier à des choses situées en un lieu, un milieu.
Ça nous ramène aux travaux de Philippe d'Escola, qui lui défend la personnalité juridique de la nature.
Ça nous ramène aux travaux de Philippe d'Escola, mais là encore, ça permet de souligner justement le paradoxe de cette solution. puisque justement Philippe Descola nous explique bien que notre manière de vivre la condition humaine, la manière qu'il qualifie de naturaliste, n'a pas toujours été. Et que jusqu'à la fin de la Renaissance, eh bien, selon lui, c'est une autre manière de vivre la condition humaine qui a brillé de ses feux, nous dit-il. C'est la période qu'il qualifie d'analogiste. Dans la période naturaliste, en définitive, cela renvoie justement à la conception occidentale moderne que j'ai qualifiée de subjectiviste. Pourquoi ? Parce que dans la période dite naturaliste, et qui correspond donc à la manière de vivre des occidentaux modernes, encore la nôtre aujourd'hui, on distingue entre la nature d'un côté et la culture de l'autre. Si je le traduis en droit, on vient distinguer entre des objets de droit, dits naturels, d'un côté, et des sujets de droit, d'un autre côté. Et donc, cette solution d'accorder la personnalité juridique à des milieux, puisqu'on assimile les personnes aux sujets de droit, dans cette vision, eh bien, cela vient finalement, comme, encore une fois, ratifier cette constitution moderne, cette opposition entre objets de droit et sujet de droit. Donc on peut dire que c'est une solution proprement naturaliste. Or, Philippe Descola nous engage à quoi ? Il nous engage justement à aller par-delà nature et culture, et donc à réadopter éventuellement une autre manière de vivre la condition humaine que nous avons connue auparavant, notamment la conception analogiste. De sorte qu'il nous invite bien plutôt à rompre, à mon sens, avec le subjectivisme juridique, à rompre avec ce que lui appelle le naturalisme, pour revenir, alors d'une autre manière, hein, évidemment, on ne revient pas à la période médiévale, ça n'a pas de sens, ni à l'ancien droit, mais réactiver des manières de penser, de vivre la condition humaine, que lui qualifie d'analogiste, et que nous, sur le terrain du droit, on qualifiera bien plutôt de réicentriste, pour utiliser les termes d'un grand juriste italien qui se nomme Paolo Grossi. Et là, ça nous renvoie à notre idée d'accorder des droits à des entités qui sont situées en un lieu, comme par exemple des bâtiments ou des églises, sans passer par la voie de la personnification, qui est éminemment moderne, éminemment subjectiviste, et donc sans doute aussi naturaliste. Mais effectivement, dans ses prises de parole, Philippe Descola parle de la personnification de la nature, lorsque sont des prises de parole dans les médias, sans nécessairement faire cette précision, mais vous pouvez la retrouver dans Part de la nature et culture lorsqu'il traite de la proposition de Jean-Pierre Marguenot d'accorder la personnalité juridique aux animaux. On retrouve ces subtilités d'une autre manière, bien sûr, dont je viens de vous parler.
Voilà, alors on se retrouve après un peu de musique.
Agora Côte d'Azur.
Palazzinaro amaro, sei un palazzinaro baro, per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro, al funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo vedere il nostro lago naturale. Scava, 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 nella notte brava, hai trovato l'acqua bullicante, 10.000 piante, l'acqua con le bollicine che non ha mai fine, scorre sotto le colline come queste rime. Scava, 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 e non se l'aspettava, un lago naturale d'acqua minerale, un miracolo nella metropoli meravigliosa, lì c'era una fabbrica di finta seta, la viscosa, c'era il capitalismo, un'area gigantesca, ci lavoravano le madri, padri, ogni scolaresca, ognuno che pensava,
morte tua, vita mia,
fallito hanno tramato ed è arrivato
il lago della Snia,
e a me viene da piangere per tutte le magagne, per questo lago che non ha intorno le montagne, non è il Turano, il lago di Bolsena, ha intorno 100.000 macchine, ognuna dentro il suo problema.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flutter cielo, è la natura che combatte, questo quartiere meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Bella Torpigna Tara, bella borgata dove il razzista ha la sua bara. Amiamo anche Prenestino Labicano. Se sei con noi adesso alza la tua mano. Qui l'aria è più dolce da quando è nato il lago e non è spuntato dal cappello di un mago. È il nostro lago, è uscito da sottoterra e si è alzata una guerra nella zona della Maranella. Dietro il cancello chiuso c'era un abuso, avevano cambiato la destinazione d'uso. Scava, 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 nella notte calda trovano la falda, in alto la mia banda. Tutto il quartiere va al cancello per aprire un varco.
Basta con il cancro, noi vogliamo il parco. Aprite questo ingresso, sta nascendo un lago.
Ma il costruttore zitto, lui faceva il vago. Succhiava con l'idrovora, succhiava l'acqua e la buttava nelle fogne, andasse tutto in vacca. Poi è arrivato un acquazzone e non è un segreto. Si è rotto il collettore, si è riempito di merda il pigneto. Da allora il lago ha vinto, si è stabilizzato ed è il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto e noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flutter cielo, è la natura che combatte, sto quartiere è meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Da tutte le finestre di Largo Preneste hanno visto questa scena sotto il cielo celeste. L'acqua che esce e rigenera l'umanità. Il sindaco che fa? Qui c'è la felicità. Di superficie 10.000 metri quadri. Ma attenti, sono tornati i ladri, gli stessi dei padri, dei nonni, quelli che cambiano i panni e vogliono rubarci il lago da più di 10 anni.
Esproprio, esproprio
per il nostro polmone. E qui ci siamo tutti,
e casa Albertoni.
Noi abbiamo questo passo, lottiamo dal basso. E quale bando qui? Ognuno dà la vita senza niente in cambio. Tutti alla riva dell'acqua sorgiva che esce in superficie e fa Roma più viva. L'underground ci dà buoni amici, la natura si ribella, noi ci fa felici. C'è il cormorano con noi, il Martin pescatore sta dietro la stazione Termini e Porta Maggiore. Piano piano è nato un nuovo ecosistema, c'è un bambino che nell'acqua va in canoa e che rema.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco amori, flutter cielo, è la natura che combatte, sto quartiere meno nero.
Nous nous retrouvons pour un alter regard avec Sarah Van Uxen. Pourquoi vous avez choisi ce morceau?
J'ai choisi ce morceau parce qu'il raconte une lutte. Donc c'est le lac en Luc, c'est le lago di Bulacante, un lac dans le sud de Rome qui a été sauvé par justement la communauté des Romains du quartier de Perestino. Alors, j'ai choisi aussi ce morceau de musique parce qu'il est comme un écho finalement au poème de John Clare que nous avons pu entendre chanter tout à l'heure, puisque cette fois-ci, c'est comme un lac qui revendique en quelque sorte des droits avec la communauté des êtres humains qui l'accompagnent. J'ai choisi aussi ce morceau parce que cela me renvoie mon séjour à la Villa Médicis, qui a été l'occasion de ce livre du droit de déambuler. Et donc, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'habitants des lieux qui avaient sauvé ce lac, qui est un lac qui a comme surgi miraculeusement du fait de travaux qui visaient en définitive à créer un parking souterrain. Souterrain, un centre commercial. Et puis, il y a eu comme une manière d'explosion. Les eaux ont jailli et un lac est apparu. Et alors, les habitants du quartier se sont battus pour défendre le lac. Et ce lac, aujourd'hui, est allié à un autre cours d'eau, qui est un cours d'eau à Bruxelles, le Marais Wills, où également la communauté des usagers, des voisins en fait de l'étendue d'eau, se sont battus pour la retirer en fait à la communauté des spéculateurs.
Donc ça, c'est devenu un commun.
Et c'est devenu un commun, c'est revendiqué comme tel. On a des articles qui sont parus dans la presse, y compris française, je pense à un numéro de Social Terre. Et toute la littérature sur les communs, effectivement, est réutilisée, citée pour justifier du maintien de ce lac, avec un jardin qui est juste à côté, qui est utilisé encore aujourd'hui pour un certain nombre de fêtes de quartier. Et j'ai pu faire la découverte de ce lac grâce à un groupe d'artistes marcheurs qui s'appelle Stalker, en référence à un film de Tarkovsky du même nom, hein, Stalker, et qui existe depuis au moins bien les années 90, et donc qui parcourt la Grande Rome, non pas simplement le centre-ville, mais la Grande Rome, à pied, avec un certain nombre de voyages qui peuvent avoir pour objectif ou bien la relecture, la découverte des résurgences de cours d'eau, ou bien encore l'accompagnement de communautés reconstituées accueillant un certain nombre de migrants. Donc voilà, ils ont un certain nombre d'activités. Ils se sont des architectes, des paysagistes à l'origine qui ont constitué ce groupe qui existe encore aujourd'hui.
Alors le livre que vous avez commencé à aborder, c'est « Du droit de déambuler ». Alors est-ce que on dit le livre s'appelle « Du droit de déambuler » par opposition ou je ne sais pas avec « Le droit de déambuler » et par rapport à la propriété, comment on situe tout ça?
Alors, du droit de déambuler, comme on dirait anciennement, dans certains, cela renvoie plutôt à des titres anciens qui s'intituleraient du droit d'être propriétaire ou du droit de se marier ou voilà, c'est plutôt
une expression plutôt...
oui, peut-être un petit peu vieillissante, peut-être archaïque, on dirait de droit. Mais sinon, pourquoi le droit de déambuler? Cela renvoie à une décision en fait de la Cour de cassation de Rome de la fin du 19e siècle qui a reconnu un possible droit de déambuler, un possible jus deambulandis au peuple romain, aux citadins de la ville de Rome, car alors le prince Borghèse avait fermé les jardins Borghèse, qui existent encore aujourd'hui, au peuple romain. Et donc la ville de Rome avait engagé une action en justice entre 1885 et 1887 pour recouvrer ce droit de circuler dans les jardins. Et voilà, j'ai trouvé très belle cette expression de jus deambulandi que j'ai traduit par droit de déambuler, d'où ce titre du droit de déambuler.
Alors, le livre commence par une série de photos qui montrent comment le droit de déambuler est entravé, justement. Vous pouvez nous expliquer ces photos, comment vous les avez choisies, des rencontres, des... voilà.
Alors, ce sont les photographies de Geoffroy Mathieu, qui produit un certain nombre de séries photographiques. Donc, ces photos sont à chaque fois extraites de séries. Et ces séries photographiques, il se trouve qu'elles entraient comme en dialogue avec mes propres textes, puisque Du droit de déambuler est un recueil d'articles, un recueil de textes. Geoffroy Mathieu a par exemple travaillé sur les chiens errants à La Réunion, et donc cela fait écho à l'un de mes articles qui traite du droit, ou plutôt du délit de vagabondage, ou du délit de divagation, par exemple pour les chiens et les chats errants d'aujourd'hui. Il y a d'autres de ces photographies qui sont par exemple, qui renvoie à la difficulté pour les gens dits du voyage aujourd'hui, que l'on appelait avant les nomades, de circuler. Et donc on voit comment les collectivités publiques entravent littéralement non seulement le passage, mais la possibilité même de s'installer. Donc il y a un de ces ouvrages qui s'appelle Anti-installation. Et donc on voit comment les collectivités publiques en viennent littéralement à défoncer leurs trottoirs, à mettre des gravats sur, par exemple, des terrains vagues, et finalement à abîmer le paysage qui participe du patrimoine commun de la nation française pour simplement empêcher l'installation de gens. Alors, il y a des images plus positives qui sont dans le livre, qui sont extraites d'autres séries. Je pense, par exemple, à des déambulations urbaines aux alentours de Marseille, qui mettent en avant des artistes, en fait. Ce sont des artistes marcheurs. Il y a notamment le collectif Safi qui est représenté et que l'on donc on voit se faufiler le long d'un mur ou derrière un grillage. Et on voit notamment comment ces artistes marcheurs, le nom est le Bureau des Guides, qui existe encore aujourd'hui à Marseille et qui est très actif aussi, hein, qui est un peu le pendant de Stalker à Marseille, eh bien arpente le territoire marseillais en dépit des obstacles qui apparaissent et notamment continue d'exercer des droits d'usage collectif que l'on pourrait penser disparus, comme notamment le droit de cueillette. Je pense au collectif Safi, donc qui participe du bureau des guides et qui a une connaissance très fine des herbes, des légumes que l'on peut trouver le long des chemins. Et donc cela montre aussi comment ce droit de déambuler, ce droit d'arpenter les terres, de les parcourir, qui est aujourd'hui entravé, eh bien entrave dans le même temps ces droits d'usage collectif, qui étaient ce droit d'affouage, de récolter du bois, ce droit de glanage, ce droit aussi de cueillette.
Alors, il y a deux problèmes. Il y a l'urbanisation qui a bloqué effectivement cette possibilité de déambuler. Et puis, il y a les frontières qui sont de plus en plus étanches où on ne peut plus passer et déambuler, vagabonder, disons.
Oui, l'urbanisation, effectivement, opère comme une fragmentation du territoire. Donc, on peut penser à ce qu'on appelle les infrastructures linéaires de transport. Évidemment, les voies de chemin de fer, à plus forte raison les voies routières, qui effectivement sont comme autant de limites, non seulement à notre propre passage, nous autres humains, mais aussi aux animaux, végétaux, ou bien encore, je disais, les champignons. Donc, pour contrebalancer ce phénomène, par exemple, en droit de l'environnement, on va inventer des trams vertes et bleues avec un certain nombre de corridors écologiques ou biologiques qui vont permettre aux animaux de
oublie la trame noire qui est indispensable à la biodiversité.
La trame noire qui est aussi reconnue dans le code de l'environnement, qui permet en effet d'avoir un ciel étoilé de qualité et qui permet notamment à certains animaux, certains insectes de se déplacer, qu'il aurait absolument nécessaire. Donc effectivement, aujourd'hui, on est comme entravé dans nos mouvements, et c'est tout à fait paradoxal, parce qu'on pourrait penser qu'aujourd'hui, justement, avec la Révolution française, avec l'avènement de la modernité, ce qui naît avec le subjectivisme juridique, c'est aussi l'humanisme juridique, c'est aussi l'émancipation individuelle, ce sont toutes ces libertés individuelles auxquelles nous tenons tous et toutes. La liberté d'expression, bien sûr, mais aussi la liberté d'aller et de venir. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en définitive, la liberté d'aller et venir, c'est d'abord une liberté de circuler des biens, des services, des capitaux, des êtres humains, des travailleurs, qui peut être reportée au droit de l'Union européenne, au droit du marché commun. Mais au regard de l'ancien droit, on peut penser à l'inverse, et c'est contre-intuitif, que notre liberté d'aller et venir, elle a été considérablement diminuée. Dans les ouvrages d'histoire, lorsque l'on s'intéresse à la question du vagabondage, on s'aperçoit qu'il était beaucoup plus courant aujourd'hui de se déplacer, par exemple, d'un village à un autre, avec des artisans qui se déplaçaient pour vendre leurs marchandises d'un village à un autre, et que on était beaucoup moins entravé sur le territoire. Et précisément, dans ses poèmes, John Clare, que l'on a pu écouter tout à l'heure par l'intermédiaire du groupe de folk, eh bien, nous explique que toutes ces enclosures, et donc à plus forte raison aujourd'hui ces voies de chemin de fer, par exemple, sont autant d'obstacles finalement à cette liberté de circuler.
Alors je voudrais, pour terminer, citer quand même le travail d'Axel Sonesi, que vous avez inspiré, et que j'ai accompagné pour son mémoire de fin d'études, c'est lui qui m'a permis de vous connaître. Et son mémoire porte sur le paysage, avec l'idée que le paysage est un bien commun. Donc il a travaillé sur le Cap d'Antibes. Il a été choqué par les hauts murs et caméras qui protègent les luxueuses villas. Et il a imaginé, proposé, rendre le paysage aux habitants. Et donc un droit, créer un droit d'accès à la nature, donc qui serait plus universel.
Alors on pourrait penser, d'une certaine manière, que Axel Sonesi a été écouté par le législateur français, à première vue, si l'on pense à une loi de 2023 qui est venue limiter l'engrillagement, notamment en Sologne, mais c'est une loi, donc elle vaut pour le territoire français dans son ensemble, avec des limitations justement de hauteur de ces grillages. Alors, cette disposition vaut pour les domaines ruraux et le domaine forestier, non pas nécessairement pour les villas qu'Axel Sonesi a en tête sur le territoire d'Antibes. Mais je disais entendu seulement pour partie, parce que cette loi de 2023, qui avait pour objectif premier de limiter l'engrillagement des territoires, elle a aussi, dans le même temps, créé dans le code pénal un nouveau délit, d'infraction, d'intrusion dans les propriétés, dans les domaines privés. Et ce nouveau délit qui a été créé permet en effet considérer que vous êtes en infraction lorsque vous entrez sur la propriété privée d'autrui et que le propriétaire a pris la peine non pas de clôturer, non pas de prendre les moyens financiers de clôturer, mais simplement de mettre un panneau avec écrit « défense propriété privée, défense d'entrée ». Et nous avons un exemple de nouvelle clôture très proche d'ici, avec le marquis de Villeneuve-Loubet, qui a saisi comme l'occasion, en tout cas il y a vu un outil sans doute favorable à son projet, de fermeture de son territoire à la promenade au profit de la chasse sur ses propres territoires.
Voilà, alors merci Sarah. On rappelle les livres, donc « La propriété de la terre », du droit de déambuler, c'est les éditions Wild Project. Je peux citer aussi Jean-Marie Arribé, En quête de valeur, et puis un numéro du 1 l'hebdo, traitant de À qui appartient la nature, qui est du 26 février, mais qu'on doit trouver dans les bibliothèques, je suppose.
Oui, et vous pouvez aussi retrouver un article de Philippe Descola qui justement fait écho à ce numéro du 1, dans la vie des idées, c'est librement accessible en ligne et le titre est précisément « À qui appartient la nature ?».
Alors merci encore Sarah d'avoir accepté de participer à mon émission et nous nous retrouvons dans un mois pour un autre Alter Regard.